Et voilà, nous allons maintenant partir dans notre chronique baloise. Et nous avons tout de suite au téléphone Isabelle. Bonjour Isabelle, tu m'entends depuis Bâle ?
Ouais, je suis là.
Oh, le miracle de la technique. Alors Isabelle, pour cette première chronique, quelles sont tes impressions baloises ?
Alors, plutôt que de parler d'impressions, en fait, aujourd'hui, je vais vous faire part d'une découverte que j'ai faite. C'est la découverte d'un lieu, d'un grand parc au sud de la ville de Bâle, qu'on appelle l'Ermitage. L'Ermitage, alors, c'est un lieu très étrange. C'est un grand parc, en fait, avec des fontaines, des grottes, des cavernes, un château même. Et on y raconte, sur ce parc, beaucoup de légendes et d'histoires très diverses, dont une, je vais vous en raconter une maintenant, c'est l'histoire d'Odile. En fait, au 7e siècle, le duché d'Alsace s'étendait pratiquement jusque-là. Et le duc d'Alsace, ayant une fille aveugle, Odile, voulant la marier avec un jeune homme, elle n'était pas très consentante. Elle s'échappa en fait du château, enfin du duché, pour arriver jusqu'à Arlesheim, où en fait les rochers se sont refermés sur elle pour la sauver en fait des troupes de soldats que son père avait envoyées derrière elle. Et ainsi, elle recouvra la vue. Alors, en fait, c'est un lieu aussi étrange que ça, parce que plus tard, en fait, il s'est avéré que c'était un lieu de pèlerinage pour les non-voyants qui venaient ici faire des promenades et qui espéraient retrouver la vue. Ça a été un lieu aussi où des ruines celtes ont fait des cultes. Et aujourd'hui, encore, il y a des jeunes qui vont habiter là-haut et qui dernièrement encore, ont passé plusieurs mois dans des grottes à essayer de trouver une espèce de relation avec les esprits ou Dieu sait quoi, ce qui tourne autour de ce lieu. Et puis, juste à côté, en fait, pour parler aussi de l'étrangeté du lieu même, s'est installé, en fait, au début du siècle, le célèbre anthroposophe Rudolf Steiner. Je crois qu'on connaît assez maintenant les écoles de Rudolf Steiner.
Oui, effectivement.
La société, en fait, a son centre ici. Ça, c'est quelque chose de très, très vaste, dont je ne vais pas vous parler en détail aujourd'hui, parce que ça demanderait beaucoup plus de recherches que je n'ai pas eu le temps de faire encore.
Non, mais peut-être en deux mots, tu peux quand même répéter en deux mots ce que c'est que les anthroposophes.
Alors, l'anthroposophie, c'est une science, en fait, de l'esprit. C'est autant qu'une science, c'est une religion, c'est une école, c'est une philosophie qui tente de faire des liens entre l'esprit, le corps et l'âme. Alors, c'est assez complexe, j'ai essayé de me documenter, mais bon, tout ça est en allemand pour le moment, c'est plutôt difficile. Alors, ils ont là le centre, qui est le Goetheanum, qui est une université, qui est aussi un théâtre, qui est aussi des ateliers d'artistes, de sculpteurs, de peintres. Et il y a aussi autour de ce coin, le village de Dornach, qui est aujourd'hui le centre de cette société, qui produit leurs légumes, qui ont tout un centre d'activité là sur place. Alors ça, c'est vrai que ça mériterait des détails que je ne peux pas encore vous donner pour le moment. Bref, pour parler un peu plus de l'actualité, dernièrement ici, alors ça c'est vrai que c'est un des thèmes dont on a parlé dans les journaux, il s'est ouvert un centre, un bureau de consultation pour femmes victimes de violences. Alors ce qui est intéressant et ce qui est intéressant dans le sens où c'est problématique de nouveau pour les femmes, c'est qu'elles n'ont pas encore reçu de subvention de l'État. Pour le moment, ce bureau pense pouvoir tenir quelques mois. C'est malheureux parce qu'il existe une loi au niveau cantonal qui devrait stipuler qu'il y ait aide à ces gens, donc autant les femmes que les hommes. Alors pour le moment, ce centre de femmes, ce bureau de consultation est ouvert qu'aux femmes, parce que c'est à l'initiative d'une association privée qui a pu obtenir des soutiens de communes et d'associations de femmes, ainsi que de privés qui veulent bien faire des dons. Alors pour le moment, ce centre est un peu vient d'ouvrir, mais on compte déjà les jours d'ouverture qui peuvent leur être un peu en sursis, parce que tant qu'elles n'ont pas la subvention de l'État, elles n'ont pas vraiment la force de continuer comme ça. Voilà en tout cas pour ce qui était des informations. Je trouvais important de faire part de ça parce qu'il y a ici une Frauenhaus, qu'on appelle Frauenhaus, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Suisse romande. Mm-hmm. C'est une maison où sont accueillies justement les femmes victimes de violences sexuelles.
Type les femmes battues à Genève.
Voilà. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on appelle ici la Frauenhaus. Alors c'est sur l'initiative de femmes qui s'occupent déjà de cette maison qu'a été créé ce bureau.
Qui sera donc pas un lieu d'hébergement, mais plus d'accompagnement,
non,
etc.
Oui, ça devrait devenir, au fond, un lieu de consultation où les femmes peuvent aller simplement poser des questions, qui devrait aussi faire office de lieu de contact, de prise de contact, parce qu'en fait, l'adresse de cette Frauenhaus, personne ne la connaît, puisqu'elle reste anonyme pour le moment. Alors les rendez-vous se faisaient jusqu'ici dans des cafés, par le téléphone, ce numéro de téléphone d'appel de secours, elle se rencontrait dans les cafés, enfin elles n'avaient pas de lieu précis. Alors maintenant, ce bureau de consultation devrait faire office un peu de première prise de contact pour ces femmes. On sait déjà que c'est assez difficile pour ces femmes de prendre le téléphone. Alors ça devrait servir à ça au fond, ainsi que d'aide juridique et de conseil juridique et social et psychologique pour les femmes. Voilà.
Eh bien Isabelle, c'est fantastique. En tout cas, si... est-ce que dans le parc de l'Ermitage dont tu parlais tout à l'heure, on peut y accéder facilement? C'est loin du centre
alors,
de Bâle?
Non, c'est pas très loin ici. Il y a un réseau de transport public qui est très très bien fait. C'est à Arlesheim. C'est pas loin, c'est comme ça, 10 minutes en tram, avec un petit tram régional, au sud de la ville de Bâle. Et c'est assez bien indiqué. Il y a comme ça des flèches. En même temps, aujourd'hui, c'est un jardin anglais, ce qu'on appelle un jardin anglais. Ça a été quand même bien aménagé. Et la commune se met à disposition et il y a même un panneau qui indique et qui donne quelques renseignements sur toutes les histoires et sur le parcours à faire avec toutes ces grottes et ces fontaines qui ont chaque fois une signification. C'est en tout cas, si vous avez envie de faire un petit tour à Bâle, c'est un lieu que je conseille de visiter. Voilà, sinon, je crois comme à Genève peut-être, mais le temps est vraiment très couvert. On a des grands couvercles de nuages sur la tête. Ça...
C'est la déprime du mois de novembre,
voilà,
on le sait bien.
Il faut
se faire des petits coups de fil, c'est d'autant plus nécessaire pour se donner courage de bout à l'autre de la Suisse.
Alors j'espère que ça aura servi comme coup de soleil.
Tout à fait.
Soleil.
En tout cas, les balades à Bâle, je suppose, peuvent être très bienvenues, parce qu'il n'y a pas que Paris comme ville vers laquelle il faut pointer ses week-ends. Je crois que ça vaut la peine d'aller de temps à autre, entre autres à Bâle, qui est une ville très vivante. Ça va, tu t'installes, tu te sens un peu mieux là?
Gentiment, mais sûrement, oui, ça va bien.
Alors écoute, on se réjouit de te retrouver dans un mois pour une nouvelle petite chronique. On espère que tu auras fait de nouveaux pas dans cette belle ville.
Oui.
Et puis surtout que...
toujours plus loin. c'est finalement, en tout cas, au niveau de la ville, c'est petit, mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses intéressantes à voir. Ça, je vous en parlerai, je vous ferai une chronique, voilà.
Super, mais j'espère que des auditrices emboîteront ton pas sur ta proposition. Ce sera plus seulement des chroniques baloises, mais des chroniques d'un peu partout. Voilà, ni plus ni moins.
Je t'embrasse Catherine, à bientôt. Hein.
Isabelle, je t'embrasse, à bientôt. C'était Jeanne Masse, Jeanne Masse, l'art des femmes. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Maria Farantouri, une chanteuse grecque que je suis presque sûre que bien sûr vous la connaissez. C'est une femme qui a beaucoup chanté les chansons de Mikis Theodorakis et qui vient de sortir un nouveau disque et qui chante, qui fait un mélange de 17 chansons complètement incroyable, puisque ni plus ni moins, elle nous chante des chansons de Lucio Dalla, italien, Milton Nascimento, brésilien, des chansons traditionnelles séfarades d'Espagne. Je vous rappelle l'époque où les Juifs se sont fait chasser d'Espagne en 1492, alors que presque en même temps on découvrait l'Amérique. Juste faire un petit rapport. Et cet événement avait bien plus d'importance, la découverte de l'Amérique. Chansons françaises, mais traduites en anglais, écrites par Michel Legrand. Encore des chansons brésiliennes, comme celle de Caetano Veloso. Bien sûr, des chansons grecques. Des chansons écrites par Kurt Weill. Et puis, comme ça, plein de chansons très, très différentes. Et j'avais envie de vous faire écouter quelques-unes de ces très, très belles chansons. Je vous propose tout de suite une chanson séfarade, Adio, querida. Maria Farantouri.
Tu madre quando de barrio mi dedico al mundo corral sorellano de Dio para amar.
C'était Maria Farantouri, qui chantait une chanson traditionnelle séfarade d'Espagne, chanson qui date de 1492, date à laquelle les Juifs se sont fait chasser par les nouveaux rois catholiques d'Espagne, en même temps qu'ils autorisaient Christophe Colomb à partir en voyage pour les Indes, puisque c'est là qu'on croyait l'envoyer. Je vous propose maintenant de vous lire un texte très très émouvant, mais en même temps très très fort, que j'ai trouvé dans l'édition de la semaine du 31 octobre au 6 novembre de l'événement du jeudi. Ce texte a une double valeur, il me semble. Il est signé Catherine Herzberg. Catherine Herzberg est journaliste à l'événement du jeudi. Et parmi 10 femmes, elle a été violée à Paris. Elle a trouvé que la légèreté, la complaisance avec laquelle certains journaux ont rendu compte de ces événements était inadmissible et donc elle a décidé de s'exprimer dans le journal. Alors, j'avais envie de vous lire ce qu'elle écrit. Il est rare qu'une femme puisse directement prendre la parole dans les journaux et témoigner d'une affaire de viol. Donc, c'est elle qui écrit. Catherine Herzberg. J'ai honte. Non d'avoir été violée au mois de juillet dernier à mon domicile par deux hommes cachés derrière ma porte. Mais j'ai honte d'être journaliste et d'assister avec un accablement proche de la nausée à la mise en spectacle par certains confrères de ma propre histoire. Mon histoire est celle de 9 autres femmes, victimes sans doute, le doute étant de mise tant que la preuve n'est pas faite, de ces deux mêmes hommes. Parmi ces femmes, 2 sont également journalistes. Aux 7 qui ne le sont pas, je présente ici mes excuses. J'ai honte pour ma profession de l'image pitoyable qu'elle offre une fois encore d'elle-même. Il n'est pas d'usage d'être à la fois juge et partie. Je me permettrai aujourd'hui de faire exception à cette règle, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ayant eu le triste privilège de suivre cette affaire de viol en série, quasiment dès son commencement, je puis, ligne après ligne, mot après mot, relever les erreurs dans la relation que font nombre de mes confrères de ces événements. J'écris « erreur », encore que le mot « affabulation » serait sans doute plus rigoureux. À double titre, je m'érige ici en comptable de ces erreurs ou affabulations. Au titre de femme blessée dans son intimité et au titre de journaliste, heurtée dans la conception qu'elle a de son métier. À l'heure où l'association Reporters sans frontières vient de tenir à Montpellier un colloque sur le thème du journalisme et de la déontologie, il est bon de souligner encore et toujours que l'éthique doit être le souci constant d'une profession dont le pouvoir n'est plus à démontrer. Le terme doit sans doute paraître un peu désuet à certains de mes confrères, plus soucieux de doubler leur chiffre de vente que d'informer véritablement. Il n'empêche qu'il guide encore la démarche d'une bonne partie, j'ose le croire, d'entre nous. Lorsqu'un grand quotidien dit « populaire » juge bon de consacrer les 25 et 26 octobre dernier sa 1 et 2 doubles pages à l'histoire de ces 2 maniaques qui violent sur liste à Paris, de quoi s'agit-il précisément ? De mettre en garde des victimes potentielles contre le danger encouru, comme cherche à le faire croire un éditorial intitulé « Assistance à personne en danger » ? Nullement. Car pour mettre en garde des personnes de danger, encore faudrait-il que l'information censée les mettre en garde soit exacte. Eh bien non. Sur les 10 victimes de ces maniaques, toutes, tant s'en faut, n'ont pas un jour ou l'autre fréquenté le centre de formation et de perfectionnement des journalistes où un fichier aurait prétendument été volé. Les 10 victimes le savent et pour cause. Les journalistes de ce quotidien dit populaire semblent l'ignorer, mais ne craignent pourtant pas de l'affirmer. Au risque de créer un mouvement de panique parmi les étudiantes ou les ex-étudiantes du centre, il eût sans doute été très savoureux de relater les viols en série de consoeurs. Hélas, il y a bien eu viol, mais les victimes n'étaient pas toutes des consoeurs. La police aura attendu près de 4 mois avant de faire le rapprochement entre tous ces viols, s'indigne ce quotidien. Non, le rapprochement a été fait au bout de 10 jours, à la suite du 3e viol, le mien. Il aura fallu attendre le 16 octobre pour que, enfin, 2 portraits robots des violeurs soient établis, s'indigne encore le journal. Non, un portrait robot a été établi le 1er août dernier. Au passage, il convient de rappeler cette évidence pour faire le portrait de son agresseur, encore faut-il l'avoir vu. À vouloir dresser une liste exhaustive de toutes les erreurs rapportées par la presse, je courrais le risque de lasser le lecteur. Mais puisque l'éditorialiste de ce quotidien précise dans ses colonnes « Ancien élève du centre de formation des journalistes et ancien enseignant de ce centre, nous avons appris aux meilleures sources à traiter l'information avec les plus extrêmes précautions. Je me permettrai humblement de lui donner un conseil. Retournez faire un stage à l'école, monsieur, sous peine de jeter l'opprobre sur toute une profession. » La seconde raison qui me pousse aujourd'hui à sortir de la réserve propre à celui qui est à la fois juge et partie concerne le viol proprement dit. Là encore, je témoignerai à double titre, au titre de femme blessée bien sûr, et au titre de la journaliste, alarmée de voir avec quelle gourmandise, quelle avidité presque, certains de ses confrères se jettent sur un fait divers propre à alimenter les fantasmes les plus sophistiqués. Je citerai à cet égard un autre grand quotidien, qu'on ne dit pas populaire cette fois. Dans son édition du 26 octobre dernier, sous la plume d'un confrère sans doute fort bouleversé, ce journal affirme que le scénario des agressions ressemble à s'y méprendre à la trame d'un roman noir. Il distille l'angoisse. Souvent grimés, les violeurs font subir pendant plusieurs heures un véritable supplice à leurs victimes, les coups pleuvent, la violence se déchaîne avec sadisme, les appartements sont mis à sac. C'était donc une citation. Non, Pour avoir malgré moi eu l'occasion de vérifier cette information à sa source, la journaliste que je suis peut, là encore, affirmer que les fêtes ne se sont pas déroulées ainsi. L'idée du viol excite-t-elle à ce point certains de mes confrères qui ne sachent réprimer leur imagination? Il y a quelques jours, l'une de mes toutes jeunes consoeurs a laissé sur mon répondeur téléphonique un message me demandant de la rappeler pour l'affaire du viol, bien sûr. Bien sûr. En matière de viol, il n'est aucune certitude qui puisse se clamer haut et fort. Comme toutes les grandes douleurs, celle-ci ne peut se dire qu'à tâtons. C'est très précisément ce que j'ai tenté de faire en écrivant le texte ci-contre dans les jours qui ont suivi mon agression. Pour des raisons de sécurité, ce texte n'a pas été publié précédemment. Mais puisque désormais, par une monstrueuse indiscrétion policière ou judiciaire, au mépris de 10 femmes qui attendent des réparations, la liste de leurs 10 noms circule dans les rédactions, il est devenu urgent que moi-même, je me nomme avant que certains de mes confrères ne le fassent par effraction. Je pense que, à mon avis, ce texte est extrêmement courageux et il était temps qu'une femme ose affirmer cela puisque, en tant que comité contre le viol de nombreuses villes, que ce soit en Suisse, en France, on avait déjà dénoncé ce rôle des journaux, mais je crois que c'est encore plus frappant de le lire directement dans les journaux. Et Catherine Herzberg a fait ce pas qui n'a pas dû être très facile, j'imagine, comme on le sait bien, comme il est dur de raconter l'événement qu'on a pu vivre. Eh bien, elle a raconté le viol qui lui est arrivé. Et parce qu'il est difficile, voire même impossible, d'en parler comme cela, elle a rédigé son témoignage à la troisième personne sur le viol dont elle a été victime, qui est cité aussi dans le journal. Je ne vais pas vous le lire en entier, je voulais juste vous lire les quelques dernières lignes de ce témoignage. Nous sommes dans un commissariat, la femme est assise face à l'inspecteur, doucement elle lui pose des questions, elle lui raconte son histoire, il tape un procès-verbal sur une machine à écrire. Incrédule, elle a regardé le haut de la feuille qui se déroule lentement sur la machine. Son identité, son adresse, suivie d'une phrase toute sèche, viol et vol avec violence et séquestration. Incrédule, elle relit et relit la phrase « viol et vol avec violence et séquestration ». Le monde avait donc un nom pour qualifier l'innommable. Mais son nom à elle, on avait nommé l'innommable. Incrédule, elle hocha la tête. Non, ces mots-là ne s'accordaient pas. Son nom à elle et ces mots-là ne lui permettaient pas de retrouver le sens perdu devant sa porte. Plus tard, elle marcha dans la rue comme une bête, à l'affût, mais elle a cherché 2 hommes qui ont pénétré chez elle et en elle pour construire une histoire insensée dans un temps perdu. Elle a croisé des inconnus, les a regardés étrangement, pleine de sa différence. Elle avait ouvert sa porte, désormais, elle savait. Elle a croisé des inconnus, des étrangers, des gens étrangers ordinaires. Pouvait-il savoir? Elle s'est souvenue de sa jupe trop courte et n'osa pas s'habiller, plus s'habiller. Ces gens ordinaires allaient-ils savoir? Comment cela se voyait-il? Elle ne se sentait pas sale, simplement, elle était une femme violée. De celle dont on dit, elle a été violée un jour, il y a longtemps, il y a moins longtemps, hier. Celle qui restera toujours violée. Elle pensa à la réparation, les retrouver, les voir, leur demander. Eux seuls pouvaient lui redonner le sens, lui permettre de recoller les fragments et épars de son identité. Elle marcha encore dans la rue, elle avait peur, elle n'osait plus ouvrir sa porte. Alors elle se dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne pouvait pas rester une femme dont le viol détermine la femme. Elle se dit qu'elle voulait redevenir une femme ordinaire, une femme qui ne redoutait pas d'ouvrir une fois encore sa porte, une femme toute bête, une femme commune. Elle pensa qu'elle allait livrer son histoire au monde, l'histoire publique d'une femme ordinaire. La scène finale se passe dans l'appartement de la femme. Elle est assise à sa table de travail, elle est journaliste et vient d'achever son article. Elle pense que le journal va être imprimé, acheté, lu. Elle pense que le journal servira à emballer les épluchures et sera jeté aux ordures. La femme signe son article, son histoire est terminée. Catherine Herzberg.